Bonjour à tous. Comme un lundi, crime et châtiment, l'emballement carcéral. 70 000 détenus aujourd'hui en France, deux fois plus qu'il y a 30 ans. Il parle de moments punitifs, d'en punir. Cette passion contemporaine, l'anthropologue Didier Fassin invite à repenser la place du châtiment dans nos sociétés contemporaines. Un engouement qui va de pair, selon lui, avec la montée des inégalités. Français, enseignant à Princeton, de passage à Paris, Didier Fassin, invité donc de la dernière partie de la Grande Table, dans le cadre de notre journée spéciale « Comment rétablir la justice sociale cartographique ». Des inégalités françaises. Mais d'abord, il y a de quoi. Sacré meilleur roman de 2015, année de sa sortie aux États-Unis par Barack Obama, Les Furies de Lauren Groff arrive aujourd'hui dans nos librairies. Bien écrit, haletant, épique, vous pouvez sans risque courir vous aussi comme une furie, vous le procurer. Mise en bouche avec son auteur, américaine de 38 ans et trois romans, déjà notre invité jusqu'à midi et demi, tout de suite sur France Culture.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. La Grande Table, c'est le rendez-vous des arts et des idées à écouter en direct ou à podcaster pour être sûr de ne rien manquer. Les Monstres de Templeton et Arcadia, ces deux premiers romans publiés chez Plon. Le troisième vient de paraître en France, Les Furies, aux éditions de L'Olivier, traduit par Karine Chichereau. Un mariage, celui de Lotte et de Mathilde. Un roman en deux parties, le point de vue de lui d'abord, puis le point de vue d'elle. C'est Fortune, première partie, Furie pour la deuxième. Chaque histoire a deux côtés. Chaque relation a deux perspectives et parfois, il s'avère que la clé d'un grand mariage n'est pas ses vérités, mais ses secrets. Voilà pour le pitch. Rebondissement à prévoir, mais au-delà, richesse du détail, psychologie des personnages finement campés, fresque sociale. Finaliste du National Book Award en 2015 pour Fates and Furies, l'auteur des Furies, en français, est avec nous aujourd'hui. Lauren Groff, bonjour.
Bonjour, je suis très contente d'être ici. Merci.
Et on est ravis de vous avoir. Et ainsi que votre voix française, FD. Bonjour à vous.
Bonjour.
President Barack Obama told People magazine that Fates and Furies, Lauren Groff's story of a marriage told from both sides, was his favorite book of 2015. Obama told People magazine that Groff's novel topped his list of books read this year. The novelist, learning of his choice, tweeted, "I just died, came back to life, read it again, died again. That's it. I retire." Groff later told BuzzFeed, "Never, even in my most grandiose dreams, did I think the president would read my book, let alone like it. I wish he could run for a third term."
Waouh, livre préféré de Barack Obama en 2015, c'est plutôt flatteur. Et vous avez réagi, Lauren Groff, sur Twitter, "That's it, I retire, je prends ma retraite." Mais vous y pensez pas sérieusement?
Non. I'm not retiring at all.
Bon, parfait.
Non, je ne me retire pas de la vie, ni de l'écriture.
Bon, dans la veine des deux précédents, Les Furies vous semblent peut-être quand même suffisamment aboutis pour penser, passer à autre chose, tourner une page, aller par exemple vers une autre forme d'écriture, vers du théâtre. On sent que vous y prenez goût et que vous y avez pris goût aussi dans ce roman. Lauren Groff.
Theater is a temptation for you.
Yes, I love theater. I actually tried to write a couple of plays.
Oui, j'adore en effet le théâtre et j'ai essayé, je me suis essayé à l'écriture de pièces et je fais allusion à l'écriture d'un opéra. Mais je crois que au fond de moi-même, je suis une romancière et j'aime incarner mon écriture.
Ce roman, très foisonnant, vous l'avez écrit en combien de temps?
So I began this book in 2009.
J'ai démarré l'écriture de ce livre en 2009 et je ne l'ai pas achevé avant 2014.
Cinq ans. Il y a une vraie continuité avec vos deux précédents romans, hein?
Oh, I actually don't think there's much of a continuity.
En fait, je ne trouve pas. Je ne vois pas ce fil rouge, non. Je les trouve très différents, ces trois romans, en mains aspects.
Oui, ils sont différents quand même. On va mettre en exergue quelques similitudes, peut-être quelques obsessions chez vous, Lauren Groff. D'abord, Obama, le président intello, qui félicite et choisit votre roman comme étant pour lui son roman préféré de l'année 2015 parmi tant d'autres. On ne sait pas quel sera le roman préféré de Donald Trump cette année, ça c'est un vrai suspense. Depuis, en tout cas, et ça avait commencé avant, hein, la critique littéraire américaine vous a encensé. Le livre s'est extrêmement bien vendu aux États-Unis, il est maintenant traduit dans plus d'une vingtaine de pays. Le Washington Post écrit que vous devenez meilleur à chaque roman. Le New York Times que vous avez un talent rare. Poursuivons. Encouragement à continuer. C'est un roman générationnel, Les Furies, c'est un roman d'époque aussi, mais en même temps, il y a assez peu de références directes aux événements extérieurs, à la politique. Pourquoi ?
I wanted to talk primarily about privilege, and I wanted to talk about privilege during a time that was very
Et lors d'une époque qui était plutôt utopique. Donc ce livre se situe dans les années 90. À l'époque, il y avait beaucoup d'optimisme, beaucoup d'espoir, l'économie allait bien. Et ce livre avance jusqu'à l'époque contemporaine. Voilà, en même temps, je voulais ce conte de fées pour adultes.
C'est comment, demanda doucement Nathalie, le mariage, je veux dire, un banquet sans fin, et tu manges, et tu n'es jamais rassasié, dit Lotto. Kipling appelait cela une très longue conversation, ajouta Mathilde. Vous êtes mariée, vous, Lauren Groff?
How are you married?
I am married. Yes,
ah, I'm married. Je suis mariée.
I've been with my husband since 1999.
Et depuis 1999, oui. Je vis avec celui qui est mon époux aujourd'hui.
Oui. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez des secrets pour lui. J'imagine que oui.
Mais bien sûr,
heureusement.
Tout le monde.
Et là, vous passez au français pour dire ça. Comment vous définiriez le mariage, leur mariage, celui de vos deux personnages, de vos deux héros, Mathilde et Lotto? Est-ce qu'on peut dire quand même qu'au départ, c'est un idéal?
I believe it does depart a little bit from the ideal vision of marriage, but I have
bon,
to say
ça s'écarte un peu de la vision idéale du mariage, cette situation, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Les liens conjugaux, c'est à la fois très personnel, très intime, mais c'est aussi quelque chose qu'on montre aux autres, comme si on se mettait en scène, comme au théâtre. Et ce mariage entre Lotte et Mathilde, ils s'aiment tous les deux profondément, mais ils ne connaissent pas tout l'un de l'autre.
Maintain your own autonomy.
Et quelque part, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir conserver son autonomie, son indépendance, mais aussi au sein de ce lien tellement intime.
Quel contrat tacite entre eux? Qu'est-ce qui les lie?
Well, it began as sex, and I think for a lot
bon,
of couples,
ça démarre par la sexualité, et je crois que c'est comme ça que ça démarre pour beaucoup de couples. Mais la relation s'approfondit, elle devient respect mutuel. Ils se reposent l'un sur l'autre, et ils définissent l'autre comme étant ce qui vient les compléter et les faire avoir une vie parachevée.
Si ce ne sont pas les mensonges, les non-dits, ce qu'on ne dit pas, quelles sont pour vous les failles de ce couple que vous avez imaginé, de ce couple de littérature, de fiction?
So they have, I mean, they both have massive faults. I mean, I'm not interested in people who are perfect.
Ils ont beaucoup de failles chacun. Ça ne m'intéresse pas les gens qui sont parfaits. Ça ne m'intéresse pas d'écrire sur des personnages parfaits non plus. Lancelot, Lotto est très narcissique et c'est vraiment un enfant qui a eu tous les privilèges à sa naissance. Et je l'ai doté de tous les privilèges. Il est riche, il est beau, il est grand, il est blanc. Mais au fond de lui, il y a beaucoup de tristesse, il y a des choses sombres en lui. Et d'un autre côté, Mathilde est une femme très indépendante. Et elle a besoin avant tout de sécurité. Elle a un besoin désespéré.
I'm trying not to give away any spoilers.
Trouver ce qui peut la compléter. Vous savez, je veux pas gâcher l'intrigue. Alors c'est difficile de parler de ce destin de Mathilde.
So they find in each other a lot of solidity, and they.
Mais Lancelot et Mathilde trouvent beaucoup de solidité l'un dans l'autre, et ils voient en l'autre l'idéal et le reflet de ce qu'ils pourraient être idéalement eux-mêmes.
Et ça, c'est le couple parfait.
No, not at all. I don't think they're perfect.
Non, pas du tout. Je ne crois pas que ce soit un couple parfait.
Ils ne le sont pas au final, mais dans ce qu'ils recherchent, dans ce qu'ils attendent de leur couple.
In what they seek, in what they expect, aren't they perfect?
No, I also don't think that they're perfect in what they.
Non, pas non plus dans leurs aspirations. Non, je ne les vois pas comme parfaits non plus dans ce qu'ils recherchent. Yes. Mais je comprends ce que vous voulez dire, oui. Yeah.
Est-ce que c'est un livre pour vous sur le mariage, Lauren Groff, comme on l'a beaucoup dit, beaucoup écrit, ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça, un livre sur la place notamment de l'individu dans la société? Quel est pour vous le vrai sujet de ce roman.
Yeah, I would hope very, very much that it's not a book about marriage.
Oui, j'espère fortement que ça ne soit pas considéré comme un livre sur le mariage.
Non. I wanted to write a book about privilege.
Je voulais écrire un livre sur ce que c'est que de naître privilégié, et je voulais parler d'individualité, d'individualisme, d'autonomie et d'indépendance.
But marriage is for me. I like to think of it as sort of the casing of the bomb. But the bomb is what's important. The explosion.
Mais c'est vrai que le mariage, c'est une pièce importante de cette bombe, mais il y a la clé pour faire sauter cette bombe, et c'est ça qui m'intéressait.
On a beaucoup dénoncé ces derniers temps le mensonge en politique, et notamment dans les débats de la dernière élection présidentielle américaine, même si c'est pas nouveau finalement, hein, le mensonge, ni en politique ni ailleurs. Vous rappelez qu'il est omniprésent dans nos vies. Petits mensonges, omissions, non-dits. Mathilde y a souvent recours. Mathilde qui, dans le regard de Lotto, est la femme aimée, la femme parfaite, la femme sans histoire. Vous ne la jugez pas?
I don't judge Mathilde. No,
non,
not at all.
En effet, je ne juge pas Mathilde.
I don't necessarily love her. I don't necessarily need to write a lovable writer,
but I l'adore pas non plus, et je n'essaye pas de la dépeindre comme un personnage très aimable. Mais je voulais obtenir un personnage intéressant. C'est vrai, elle ne ment jamais, mais elle fait des omissions. Elle omet la vérité. C'est une grande différence. Alors, les élections américaines, oui, il y a eu tellement de mensonges, des mensonges éhontés.
But I think that you can retain truths and still be truthful.
Mais je crois que on peut être vrai, sincère, tout en masquant ou en omettant de dire une partie de la vérité.
C'est-à-dire, sans juger Mathilde, comment vous, Lorraine Grove, vous jugez le mensonge dans nos vies?
Okay, so that's different because I am.
C'est une question différente. Vous savez, moi j'écris de la fiction, right? Donc professionnellement, mon boulot, c'est de mentir. En revanche, dans ma vie privée, j'ai horreur du mensonge. Je ne peux pas supporter ça. Et mes enfants n'oseraient jamais mentir, croyez-le.
Ce qui leur arrive sinon. Extrait des Furies. « Tu es une diseuse de vérité pathologique », avait un jour déclaré Lancelot. Alors, elle avait ri et concédé que c'était vrai. Mais à cet instant-là, elle ne savait pas vraiment si elle disait la vérité ou si elle mentait. De grands pans de sa vie restaient inconnus de son mari. Ce qu'elle taisait était contrebalancé avec justesse par ce qu'elle lui racontait. Toutefois, il y a des non-vérités fondées sur des mots et d'autres sur des silences. Et si Mathilde avait menti à Lotto, c'est toujours par omission. Elle ne lui avait jamais avoué que ça ne la dérangeait pas de les entretenir tous les deux pendant la première décennie où ils avaient vécu ensemble, ni même d'être pauvres, de sauter le déjeuner et dîner de riz et de haricots, ni de prendre de l'argent sur leur compte, presque vide, pour payer une facture urgente, ni même d'accepter l'argent de poche économisé par la petite sœur de Lotto qui le leur donnait parce que c'était l'une des rares personnes en ce bas monde qui fut profondément bonne. La gratitude qu'il éprouvait envers Mathilde pour ce qu'il estime être son sacrifice le rendait redevable envers elle. Il y avait bien quelque chose qui la gênait et qu'elle n'avait jamais exprimé. Elle aurait aimé que son mari soit meilleur dans ce qu'il entreprenait. Extrait des Furies, de vos Furies, un roman paru aux éditions de l'Olivier Lorraine Groff. Lotto, petit, il était destiné à un brillant avenir. Il y a une mémoire qui est phénoménale, ça en inquiète presque sa mère d'ailleurs. Il récite souvent des poèmes, et pourtant, avec la mort de son père, quand il a 13 ans, sa trajectoire sous forme d'étoile filante va se briser. Le succès, il va le retrouver à travers ses pièces des années plus tard, non comme comédien, mais comme dramaturge. Le fils prodige, quelque part, va enfin accomplir son destin. Vous citez beaucoup d'auteurs américains, mais aussi français, dans Les Furies, Lorraine Groff, et notamment Kipling. Le jeune Lancelot, Lotto, quand il est petit, il se met souvent, quand ses parents reçoivent des amis, autour de la table et il récite un poème que tout le monde connaît, de Kipling, mais pas forcément mot par mot, pas forcément entièrement. C'est le « si » de Kipling. Est-ce que vous pouvez nous en lire?
Je pourrais bien, mais c'est en français alors, je suis vraiment désolée.
Mais si vous le connaissez par cœur et que vous voulez le réciter ou le déclamer, libre à vous.
En français,
je peux vous...
Ok, si. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te remettre à rabâtir ou perdre d'un seul coup le gain de s'impartir sans un geste et sans un soupir, et c'est tout pour moi.
Non. Si, déjà, je prends un peu le relais, mais vous m'aidez.
Oui, s'il vous plaît.
Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. À vous.
Moi, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par les gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot.
Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Allez, craquez pas en route. Okay.
Aussi, ok. Si tu sais méditer, observer, connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur.
Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors...
Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.
Tu seras un homme, mon fils. Il finit par devenir un homme, Lancelot Lotto, votre héros. À quel point sommes-nous pour vous, Lorraine Groff, prédestinés? À quel point nos vies sont-elles écrites?
I always wanted to be a writer, but I wanted to be a poet.
Je voulais toujours écrire, mais en réalité, j'aspirais à être poète. Et or, ce n'est pas mon fort, la poésie, donc heureusement que je ne le suis pas. J'ai vécu 9 mois en France à l'âge de 18 ans, et je me suis sentie très seule. Je ne parlais pas la langue, je ne parlais pas le français, donc je me suis mise à lire. J'ai lu Maupassant,
Zola, and all of the classics, and so
Balzac, Zola, tous les classiques.
French, I actually became a writer of fiction.
Et à travers la langue française, c'est ainsi que je me suis sentie devenir écrivain de fiction.
Sur le déterminisme, ce roman parle aussi de ça, de nos destins. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le titre original du livre en anglais, Fates and Furies. Le destin, le déterminisme, qu'est-ce qui fait pour vous, Lorraine Groff, que l'on devient ce que l'on est aujourd'hui?
I actually don't necessarily believe in destiny.
Je ne crois pas véritablement au destin. En fait, je suis davantage d'accord avec Mathilde qui, elle, croit en l'indépendance de l'individu. Ce à quoi je voulais m'attaquer un peu avec ce livre, eh bien, c'était toutes ces divinités qui incarnent différents personnages. Les Erinies, ces divinités grecques, certaines incarnent le destin et une autre incarne l'autonomie. Et Lotto est du côté du destin, tandis que Mathilde, elle, est du côté de l'indépendance.
Qui sont justement ces furies, ces créatures du remords et de la vengeance, et qui viennent-elles persécuter dans votre roman?
Il y a de très nombreuses furies dans ce livre.
Mais la principale, je crois que c'est Mathilde elle-même.
Échille avait prévu une possibilité de rachat pour les furies, hein, de déesse infernale à divinité vénérable. Où se passe, oui, justement, rédemption? Où est la rédemption pour vous dans la vie? Dans ce roman et dans la vie.
Oh gosh, I think we try very hard to make our own redemption.
And je crois qu'on s'essaie toute notre vie à notre propre rédemption.
Redemption is maybe in.
Et si c'était pas trop tarte de dire ça. Je crois que la rédemption, elle se trouve dans la proximité entre les êtres, dans cette intimité.
And maybe also in empathy.
Et puis l'empathie également.
Empathie, compassion.
Recèle la rédemption.
Vous ne convoquez pas que de la mythologie grecque dans ce roman, Lorraine Groff, aussi des grandes traditions littéraires françaises, américaines. On va en reparler. Il est midi 22 sur France Culture, la romancière américaine. Lorraine Groff est notre invitée pour son livre Les Furies, qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier.
Something loving, I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember.
Say something loving,
I need a reminder.
mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous.
You say something loving, it's so overwhelming. The thrill of affection feels so unfamiliar. You say something loving without hesitation. It hits me, hits me.
Try your best to reassure me. I was impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager?
I don't know what this is, but it doesn't feel wrong.
I don't know
what this is, but it doesn't feel wrong.
Dans l'actualité musicale, duo de voix pour le trio anglais The XX avec ce titre Say Something Loving, extrait de leur nouvel album I See You dans les bacs vendredi prochain. Duo de voix, comme dans votre roman Les Furies, Lauren Groff, la vie selon elle, la vie selon lui. Ils seront en concert, en tout cas les XX, au Zénith de Paris le 14 février prochain, au Zénith de Strasbourg le 17 et à la Halle Tony Garnier à Lyon le 21.
France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert.
Lauren Groff, on peut rapprocher à tort ou à raison les Furies, un peu de Scène de la vie conjugale de Bergman, un peu aussi de la Pastorale américaine de Philip Roth, par certains aspects en tout cas, et notamment la représentation de ce couple parfait qui peut se fissurer si on gratte un peu. Le romancier Philip Roth parlant justement de la Pastorale américaine et du rêve américain, on l'écoute, c'était sur France Culture.
C'était surtout en rapport avec le mythe du self-made man américain. C'est-à-dire que, bon, c'est un rêve pour tout le monde, l'idée que l'on peut se transformer, faire de soi-même un succès grâce à la liberté, aux possibilités qui vous sont données ici en Amérique. Et c'était tout à fait réel. En tout cas, c'était un phénomène qui existait réellement dans ce pays et qui continue d'ailleurs, qui continue d'exister. Mais par contre, le mot n'a plus le même sens, n'a plus le même poids. La pastorale américaine a, disons, des connotations, des implications différentes. C'est-à-dire que dans le mot pastoral, il y a finalement cette notion d'ordre et de sérénité. Ce qui fait que ce n'est pas l'idée d'une ambition fulgurante, c'est le rêve américain, lui, est plein d'ambition et la récompense de cette ambition. Ça, ce sont d'ailleurs des réalités américaines. Aujourd'hui, les mots sont tellement galvaudés qu'ils ont perdu leur sens, mais la réalité est toujours là. C'est-à-dire que le travail, l'ambition vous amène à quelque chose. En tout cas, vous avez la possibilité d'y arriver. La pastorale américaine ne s'intéresse pas tellement à cette ambition, mais plutôt à la nature de la récompense. Et il y a un ordre serein, dirais-je. C'est-à-dire qu'on a l'idée que les choses sont maîtrisées. Et donc, il y a finalement deux choses, l'ordre d'une part et d'autre part la maîtrise.
Lauren Groff, c'est vrai, vous convoquez des traditions littéraires très différentes, à la fois russes, anglaises, françaises, Nabokov, Sophocle, Euripide et Shakespeare, qui est très présent dans votre roman. Et pourtant, Les Furies a quelque chose d'un roman typiquement américain.
Oh, that's interesting. Okay.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites.
earlier part of the book, the Lotto's part of the book, I wanted very much to talk about
narrative livre,
as sort of
the way that we receive cette question du récit, c'est-à-dire la manière dont on reçoit les histoires. J'ai envisagé plusieurs types de récits, l'opéra, la tragédie, la philosophie.
In Mathilde's part, I was
dans la partie consacrée à Mathilde, j'avais beaucoup en tête l'écriture féminine, tout ce mouvement du milieu du XXe siècle. Et je voulais un peu d'abord faire un agrandissement sur ce rêve américain, jusqu'à en faire un énorme ballon de baudruche. Et puis après, je voulais mettre une petite aiguille dans ce ballon et le faire exploser, ce rêve américain.
C'est fait. Il explose, sous la plume, Lauren Groff. Vous évoquez aussi des figures féminines importantes de la littérature, comme Anna Karénine ou Madame Bovary. Finalement, est-ce que l'héroïne du roman, c'est pas, ou le personnage principal du roman, c'est pas Mathilde, cette femme qui lutte pour sa survie, alors que lui, tout lui était donné au départ? C'est pas un manifeste quelque part pour vous, pour la condition féminine aussi, ce roman?
Absolutely, but also, you know, characters in literature, female characters in particular.
Mais vous savez, les personnages, notamment les personnages féminins dans la littérature, eh bien, généralement, elles deviennent furieuses et puis elles se suppriment, elles se tuent. Moi, je voulais une femme furieuse, en colère, mais qui ne se suscite pas, mais qui plutôt essaye de changer le monde autour d'elle.
Mathilde est une Antigone, une Médée. C'est une tragédie grecque dans le New York des années 90-2000. Les Furies, signée Lauren Groff, vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup à vous d'être venu nous voir.
Plaisir.
C'était un plaisir pour nous. Merci, Eve.